Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême sur le stand du Puy pour discuter avec Goum, bonjour.
Bonjour.
On va s'attacher notamment à votre travail sur Comme des Bêtes pour cette édition 2020 du Festival de la BD d'Angoulême. Mais je vais commencer par une question, on va dire, qui est un peu plus large, puisque l'année 2020 a été déclarée l'année de la BD en France par le ministère de la Culture. Ça vous fait plaisir, vous, en tant qu'auteur belge, de voir quand même que le 9e art est mis en avant, avec justement une possibilité pour les auteurs aussi de s'exprimer pour la BD?
Je trouve ça vachement bien. C'est l'année de la BD. J'espère que ça va amener une conscience chez les gens que c'est un métier et que c'est un métier que ça, voilà, qui apporte du bonheur aux gens. Donc plus on en parle, mieux c'est. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose que cette année soit l'année de la BD.
Vous disiez, avant qu'on commence d'enregistrer, que c'était la deuxième fois que vous veniez à Angoulême. Et vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial? On dit qu'Angoulême, c'est la capitale mondiale de la bande dessinée, etc. Il y a vraiment un truc spécial?
Il y a la chaleur. il y a la foule. Et ouais, c'est vrai que il y a moyen de procéder. C'est un peu on prend le pouls, quoi. On voit un peu ce qui se vend. Ouais, c'est hyper intéressant de voir ce qui marche, ce qui marche moins bien, et de rencontrer le maximum de personnes. Moi, ça c'est ça qui me fait kiffer, moi. J'adore ça. Et rencontrer son public, parce que c'est un métier vachement solitaire, la BD. Donc moi, rencontrer les gens, c'est ce que je préfère, franchement. Et puis ça me permet d'avoir des retours aussi. Donc et Angoulême, c'est le meilleur endroit pour faire ça.
Donc là, récemment, il y a Comme des Bêtes, tome 2, qui est sorti. C'est une bande dessinée avec un format un peu spécial, avec des gags qui sont page par page, on va dire. Il y a aussi le film. On sait que vous aimez le 7e art. On sait que dans votre studio, vous avez des figurines, que vous avez envoyé des albums aux responsables de Pixar. Il y a une histoire avec Coco, etc. Travailler sur Comme des Bêtes, c'est un truc un peu particulier pour vous?
Ouais, au départ, j'ai hésité quand même, parce que je me dis, reprendre une licence, peut-être que ça va me... Peut-être que je vais m'ennuyer même, tu vois, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je suis fait pour ça? Et en fait, finalement, ça m'a super plu. Déjà, je suis un fan de dessins animés à la base, j'adore ça, même parfois plus que la BD, c'est bizarre, mais bon, voilà. Je fais de la BD, mais je consomme encore plus de dessins animés. Après coup, je me suis dit, bon, voilà, il faut que je le fasse. Et puis, c'était proche de mon style, proche de ce que j'avais comme style à la base, donc je ne me suis pas senti étranger, donc j'ai dit oui. Et puis, et franchement, ça m'a permis de poser un peu mon cerveau, de ne pas avoir tout créé, que tout ne vienne que de moi, quoi. Donc, c'était vraiment agréable. Donc voilà, j'ai adoré. C'était super agréable.
Techniquement, comment ça se passe pour reprendre comme ça des personnages? Vous avez une trame graphique qui vous a été fournie, des choses que vous devez respecter absolument, ou finalement vous êtes assez libre du moment que vous gardez bien la trame, enfin leur graphisme général et puis leurs expressions habituelles?
Au départ, quand on a commencé le projet, on est assez libre, et puis au fur et à mesure, ils ont des restrictions et ça devient de plus en plus hard. Il y a même des planches qui m'ont été retirées, qui étaient finies totalement, qui ont été retirées parce que ça posait problème au niveau de... Par exemple, j'avais fait des planches qui étaient trop... je sais pas comment on dit... les personnages étaient trop humanisés, vous voyez. Et donc voilà, on m'a viré certaines planches. Mais ouais, ils sont assez critiques. Il y a des choses que nous, on ne gère pas parce qu'on ne vit pas en Amérique, par exemple. Et il y a des choses qui posaient problème et que moi je me rendais pas compte ici en Europe. On avait une histoire qui se passait où il y avait un Indien qui était représenté, et donc eux, comme ils ont un problème avec ça, et donc on a dû les virer. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'il fallait réajuster. Et ouais, on devait respecter les personnages et qui restent assez mignons, mine de rien, malgré que voilà, moi j'aime bien aussi les, par exemple le lapin, il mérite d'être un peu plus hard, mais bon, ils ont quand même voulu qu'il reste mignon, mais bon, voilà. C'est vraiment au début plus light, et puis après ça a été un peu plus hard.
Sur le découpage du page par page pour raconter des petites histoires, même s'il y a, on va dire, des petits passages, enfin des petites blagues qu'on retrouve tout au long de l'album, ça s'organise comment? Puisque on sait que la puce aussi travaille sur d'autres formats à peu près équivalents, je pense notamment aux mignons. Est-ce qu'il travaille façon scénariste et vous après vous êtes le metteur en scène, ou est-ce qu'il est un peu directif? Comment ça fonctionne sur cette relation là
Il est pas super directif, mais il me fait, comme il dessine et qu'il a l'habitude de dessiner pour d'autres albums, et ben il me fait une première proposition plus rapide et tout ça, donc voilà. Et il me donne le ton des intonations, enfin, tu vois, les expressions, tout ça. Et moi, j'agence un peu comme je veux. Par exemple, pour le deuxième tome, je me suis permis parfois d'allonger sur deux planches une planche qui était unique, quoi. Et donc voilà, il me laisse assez libre, franchement, il était très sympa, la plus, franchement. Franchement, c'était agréable de travailler avec lui, et donc voilà. C'était vraiment bien, c'était vraiment chouette. Ouais, ouais.
Le choix après, au niveau des sorties des albums, est-ce que vous avez justement carte blanche toujours, ou est-ce que vous devez respecter les sorties des films, reprendre des parties du film?
Ouais. Pour le premier tome, ils ont sorti l'album pour le film en salle, pour la sortie du film en salle. Et ouais, ils essayent plus ou moins de coller, parce que mine de rien, apparemment, ça a l'air de moins bien fonctionner quand il n'y a pas de film quand le truc n'est pas mis à l'honneur pour un film ou autre chose, quoi. Donc c'est clair que ils ont fait en sorte que ça coïncide avec la sortie du film en salle et la sortie du film en DVD. Le tome 2, c'est pour le film en DVD. Donc voilà, ouais, c'est une stratégie, hein, donc voilà. Et c'est vrai, c'est on va dire le tome 2 marche un chouïa moins, parce que justement il n'y a pas le film qui rebooste les ventes et tout ça, je pense aussi.
Qu'est-ce que les gens vous demandent en dédicace? Il y a un personnage, il y a un animal qui sort particulièrement?
Oui, c'est Pompon, le lapin.
En quelle version?
Les deux. Pour le tome 1, souvent, comme les gens veulent coller avec le tome 1, il est en version normale, et tome 2 en super-héros. Compliqué en plus, en super-héros, c'est le plus hard. Il est super long à faire, parce que j'aime bien mettre des couleurs dans mes dédicaces. Et donc je fais ça bien, mais il faut du temps.
Et du coup, vous travaillez sur quoi actuellement?
Sur un autre projet, pour une autre maison d'édition. Ouais, mais ils sont au courant. Je parle, mais ils sont au courant. Donc voilà, qui s'appelle La Fabrique des Rêves. Et ça sera au Lombard, pour 3 albums, normalement. Si tout va bien, et si je finis à temps, je ne suis pas trop en retard. Et donc voilà, et c'est avec le scénariste avec qui je travaillais pour mon tout premier album, mes deux premiers albums, Le Passage Secret et Harlem sur la route du diable. Et donc voilà, on a signé au Lombard parce qu'ils ont, apprécié l'histoire. Et donc voilà, j'espère être à la hauteur de l'histoire.
C'est ce que j'allais vous demander par rapport à ce que vous nous disiez au niveau du pitch, façon de parler, à revenir sur des histoires avec de l'imaginaire.
Ouais. C'est en fait, comme j'ai mis mon cerveau en pause pour comme des bêtes, c'était assez facile de sortir des dessins. Là, si je dois tout recréer, c'est un univers un peu assez complexe. On va dire, y a pas mal de, c'est un récit un peu à la J.K. Rowling. Il y a plein d'êtres féeriques, tout ça, à travers nos rêves et tout ça. Donc, j'ai eu du mal à m'y remettre. À créer tout de A à Z, c'était vraiment. Et puis, avec comme des bêtes, comme le timing était super serré pour les albums, j'ai dû faire chaque album en 4 mois. Donc, 4 mois pour un, 4 mois pour l'autre. Ouais. Donc, hyper stressant, avec une Universal qui pousse derrière. Donc, j'ai du mal à m'y remettre là. Bon, j'ai envie d'une petite pause. Mais bon, j'ai fait une grosse pause là, alors le Lombard, ils sont un petit peu, voilà, mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. J'y arriverai. Ce serait pour l'année 2021, donc voilà, on a un peu de temps.
Si quelqu'un vous demandait, un enfant ou quelqu'un qui veut s'y mettre un peu sur le tard, comment se lancer dans la BD, quels conseils vous donneriez, de choses à faire ou de choses à pas faire, parce que vous avez quand même un peu d'expérience maintenant.
Un peu maintenant, ouais, ouais. Ouais, écoute, je sais pas, ouais, peut-être... Ne jamais arrêter de faire. Le principal, c'est faire. Et tant que tu fais, tant que tu dessines, il y aura bien un moment donné où en fait, ça va être remarqué. Ou si t'as, et à force de faire, tu trouves ton style. Donc, je dirais un seul mot presque, hein, faire. Et c'est le principal. Et ne pas écouter trop les gens qui disent que genre c'est pas possible et tout ça, parce que le dessin, ça mène à tout, quoi. Moi, je fais pas que de la BD, je fais aussi de la pub, je travaille dans de la pub, je fais un peu de tout. Il faut du dessin pour tout, donc quand je donne des petites masterclass dans les écoles, je le dis souvent aux élèves, je dis ouais, il faut du dessin pour tout, donc ne vous arrêtez pas, quoi, de dessiner. Et puis c'est bien pour le mental, c'est bien dessiner, ça te permet de te libérer un petit peu. Si les gens dessinaient un peu plus dans le monde, il y aurait peut-être moins de... Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Il y aurait peut-être moins de violence. Les gens pourraient se lâcher. Des fois, moi, dans mes planches, je me lâche. Hein. Dans certaines planches, on voit même que je suis un petit peu nerveux. Donc, Donc voilà, c'est une manière, un exutoire. Fais, il y aura bien quelqu'un pour voir ce que tu fais et pour te remarquer.
Traditionnel ou numérique, peu importe.
Au début, quand j'ai commencé, j'ai même fait une interview où j'avais dit genre je ne ferai jamais de numérique. Et maintenant, je fais que ça, que au numérique. Donc j'avais envie de me foutre des claques quand je revois l'interview que j'avais fait. Mais ouais, le numérique, il n'y a rien à faire, ça va quand même un peu plus vite, quoi. Et c'est vrai qu'il y a le charme de le faire à la main. J'y retournerai si j'avais du temps, en fait. En fait, c'est le temps qui me manque, parce qu'il faut toujours aller plus vite, toujours aller, voilà. Et donc, et le numérique, ça permet quand même une souplesse, quoi. Donc, il n'y a rien à faire. Hein. Le numérique, c'est... Je suis obligé. Malgré que, ouais, j'aimerais avoir des originaux, par exemple. Tu vois, mais j'en ai pas. Donc, ça me plairait, ça, mais un jour, peut-être, quand je serai plus vieux, que je serai installé, là, tu vois. Donc, voilà. Là, je me permettrai, je ferai un album. Il faut que ça marche. Il faut que les gens achètent les DVD.
Si vous aviez un conseil de lecture du moment à donner...
Je pense que c'est chez Glénat, Les Bergères guerrières. Je trouve le récit formidable, une douceur terrible dans le trait. C'est une histoire géniale, c'est avec des femmes qui reprennent un village un peu suédois comme ça. Et donc en fait, les mecs sont partis, elles vont se battre à la place des mecs. Et comme c'est des bergères, elles chevauchent des moutons et des béliers. Donc c'est super, super chouette. Et je trouve qu'elle a une finesse, une douceur, c'est celle qui dessine. Je ne me souviens plus de son nom, mais j'ai failli en plus aller me faire dédicacer un album, mais j'ai pas eu le temps. J'ai travaillé trop. Donc voilà, mais ça c'est un super récit. Ils sont au tome 3, je crois. Et c'est magnifique. Voilà. Les bergères guerrières, je crois. Chez Glénat.
Pour terminer nos interviews, tous les ans, on a une question différente. Cette année, on va parler nourriture. C'est-à-dire qu'on vous propose soit de prendre une pizza avec les Tortues Ninja, un donuts avec Homer Simpson, du lambas avec les Golas, de la bière au beurre avec Harry Potter, un origiri avec Goku. Vous prenez quoi?
Alors, la bière au beurre, j'ai goûté. C'est dégueulasse. Alors comment tu dis le langue basse, je ne connais. Ah ouais, ouais, ça. Ah ouais, non, ça je suis pas trop fan. Donuts trop sucré. on va dire ce qui me tente, c'est la, j'en ai deux. Déjà parce que c'est des dessins animés de mon enfance en fait. Donc et quand je le voyais à la télé, j'avais envie de le manger. Quand les Tortues Ninja qui mangent la pizza, j'avais envie de, elle coulait comme ça, c'était trop drôle. Donc j'avais envie de manger cette pizza là. Et deux dessins animés qui me donnaient envie de bouffer, c'est les Tortues Ninja et Son Goku, quoi. Enfin, Dragon Ball, quoi. J'étais fasciné par les plats qu'elle cuisinait, que la Chichi cuisinait. Et donc, mon cœur balance entre les deux. Mais quand même les pizzas, parce que j'aime bien l'Italie, tout ça. Donc.
Un mot que vous souhaiteriez ajouter pour conclure?
Eh ben, c'était un plaisir, super détendu là, l'interview, et c'était super agréable. Et vive la BD. Et vive Angoulême.